à partir de 19h40, temps universel sur RFI.
Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et Kinshasa, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Et la une ce matin, une journée qui débute dans un calme tout relatif et précaire à Goma. Après des échanges de tirs hier encore dans la capitale du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, on fera le point dès le début de ce journal alors que la diplomatie s'active, elle aussi, on le verra. Un rapport qui établit la responsabilité de la France dans sa guerre contre les mouvements indépendantistes du Cameroun. Un rapport sur lequel ont travaillé 14 historiens des deux pays pendant près de 2 ans. Il a été remis hier au président Paul Biya à Yaoundé. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont bel et bien quitté la CEDEAO, Burkina Faso, Mali et Niger, ils ne sont plus membres de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest. Également au sommaire, une campagne des autorités tchadiennes auprès des professionnels du sexe pour lutter contre la prostitution. Et puis les problèmes récurrents liés au don du sang, les pénuries et surtout les moyens d'y pallier. On verra ça à Madagascar. On prend donc immédiatement la direction de la RDC pour faire un point ce matin sur la situation à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, devenu depuis dimanche l'épicentre de la guerre opposant l'armée congolaise et les Wazalendo aux éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Bonjour Patient Ligodi.
Bonjour Sébastien.
Avant d'aller plus loin, que peut-on dire ensemble ce matin sur la situation sur place ?
À Goma, une accalmie relative est observée depuis la mi-journée d'hier. Certains habitants commencent à sortir dans quelques quartiers. Des commerces ouvrent timidement, mais il n'y a pas encore de taxis en circulation. Cependant, vers Katoï et le camp militaire Katindo, il y a des tirs qui sont entendus en ce moment. Avant-hier et hier, des bureaux et même des entrepôts humanitaires ont été saccagés. Des sources humanitaires aujourd'hui font état des nombreux abus, notamment d'agressions sexuelles perpétrées par des éléments armés. Il est encore difficile de dire par qui exactement. Il faut ajouter que depuis hier, dans certaines rues de Goma, les images sont choquantes. Des corps sans vie gisent encore, mais aucun bilan officiel n'est disponible. Les hôpitaux sont saturés, les blessés affluent souvent transportés à moto, parfois en bus ou à pied. La ville est plongée dans le noir et selon Giscard Koussema, directeur adjoint de la cellule de communication de la présidence de la République, le président Félix Tshisekedi suit de près l'évolution de la situation dans cette partie du pays. Toutefois, il n'a pas prévu de participer à la réunion convoquée par son homologue kényan William Ruto sur les tensions dans cette région. Le chef de l'État congolais s'adressera à la nation en début de soirée à travers un message radio-télévisé diffusé en direct depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, ont précisé ses services.
Patient Ligodi en direct de Kinshasa. On l'a donc compris, Félix Tshisekedi, à première vue, ne participera pas aujourd'hui à ce sommet extraordinaire de l'EAC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, qui se réunira donc sur invitation du président kényan, William Ruto, qui est à la tête de l'EAC depuis novembre. William Ruto qui souhaite ressusciter le processus de Nairobi, Gaël Lalex.
Le président kényan a rencontré hier Amina Mohamed, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. La veille, c'est avec le président français Emmanuel Macron et le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio qu'ils s'entretenaient au téléphone. Sur X, William Ruto assure avoir reçu le soutien de chacun dans ses efforts pour la stabilité régionale. Le processus de Nairobi, lancé par son prédécesseur, le président Uhuru Kenyatta, est une coquille vide depuis près d'un an. Les relations entre William Ruto et Félix Tshisekedi se sont rapidement dégradées, Kinshasa soupçonnant Nairobi d'avoir pris le parti de Kigali. Mais le contexte a changé, explique Hassan Kanenje, directeur de l'Institut international sur la Corne. La déroute des forces de la SADC sur le terrain et l'échec des discussions de Luanda laissent Félix Tshisekedi à court d'options, poursuit-il. Selon une source diplomatique, en appelant la SADC, l'Union africaine et d'autres acteurs à prendre part à cette initiative, William Ruto ferait preuve cette fois d'humilité. Il reconnaît au moins la complexité de cette crise dont les retombées vont bien au-delà de l'Afrique de l'Est, poursuit-il. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Le Kenya, qui dénonce par ailleurs l'attaque de son ambassade hier à Kinshasa, à l'occasion de manifestations ayant éclaté dans la capitale congolaise en marge de cette guerre dans l'Est. D'autres représentations ont également été prises pour cible, celles de l'Ouganda, de la Belgique, de la France, des États-Unis. En réaction, Washington invite ses ressortissants à quitter la RDC. à l'heure où les condamnations se multiplient également à l'endroit du Rwanda, qui a déployé des hommes et soutient les éléments du M23 sur le sol congolais. L'Allemagne a notamment annoncé la suspension de son aide au développement à destination du Rwanda. Hier, lors de la seconde réunion au Conseil de sécurité de l'ONU en l'espace de 48 heures, la Chine a également appelé Kigali à revoir son soutien au M23. Enfin, le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu aujourd'hui avec Paul Kagame, appelant à un cessez-le-feu immédiat. En face, la présidence rwandaise salue une discussion constructive, alors que sur le terrain, à Goma, c'est l'urgence qui domine pendant ce temps-là. Le bilan est déjà lourd, près de 100 morts, une guerre qui aggrave une situation humanitaire déjà préoccupante. Les populations fuient, nombreuses. Certains passent la frontière vers le Rwanda, justement, où plus de 1000 réfugiés sont arrivés hier, dans un centre à une dizaine de kilomètres de la frontière, dans la localité plus précisément de Rutshirero, là où on retrouve ce reportage de Lucie Mouillot.
Assis à proximité des tentes pour les blessés, Julius Africa cherche à retrouver ses proches perdus dans la panique de la fuite de Goma.
Je suis parti avec ma famille, ma sœur, ma nièce, mais maintenant je ne sais pas où ils sont. Quand la dernière bombe est tombée autour de nous, tout le monde s'est séparé. Je ne sais pas où ils sont maintenant, s'ils sont en chemin, s'ils sont restés là-bas, je ne sais pas.
De nombreux camions et bus arrivent tout au long de la matinée dans le camp pour déposer les derniers réfugiés arrivés. Si certains ont amené matelas et couvertures, dans la précipitation, Dunston Nabala n'a presque rien emporté.
Il y a des bombes qui tombaient dans le quartier, blessés même des voisins. On n'a pas eu trop le choix, on a décidé de sortir malgré les balles, malgré des tirs. Il y a des victimes, la population, des gens qui sont blessés, il y avait même des morts. On ne pouvait rien y faire.
Pour l'instant, plus de 1200 réfugiés sont accueillis à Rutshirero, mais pour beaucoup, le Rwanda n'est qu'une première étape sur la route.
Il y avait des rebelles qui sont de l'autre côté, donc le seul chemin qu'il y avait, c'est le Rwanda. Alors on n'avait pas trop le choix, on a décidé de venir ici et voir s'il y aura au moins les chemins pour arriver de l'autre côté du pays, puis aller à Bukavu. C'est ça les plans, quoi.
Les autorités se préparent à des arrivées très nombreuses de réfugiés. Le centre de Rutshirero peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes et un autre site est en préparation. Lucie Mouillot, Guy Seni, RFI.
Et après ce journal, on fera un point sur la situation à Goma également avec notre invité Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC. C'est un document de 1000 pages qui établit la responsabilité de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais entre 1945 et 1971. Le fruit du travail de 14 historiens français et camerounais ayant travaillé sur la question pendant près de 2 ans. Un rapport remis hier au président Paul Biya à Yaoundé, une semaine après sa remise à Paris au président français Emmanuel Macron. Et ses conclusions n'éludent pas le rôle de Paris, Polycarpe Samba.
En 2 ans de travaux, la commission dit avoir dépouillé 1100 cartons des archives, avoir eu accès à 2300 documents déclassifiés et réalisé une centaine d'entretiens entre autres. Un travail que les membres qualifient eux-mêmes de titanesque et qui n'a pas été sans défi. Alvin Diasembe, historienne camerounaise, membre de la commission.
En tant qu'individus ayant des trajectoires différentes, nous avions chacun ses sensibilités. J'en veux pour exemple mes divergences avec Koufane sur le rôle d'Aïdjo. Ça a été très tendu et Dieu seul sait combien de fois nous avons dû écrire des parties ensemble.
Si les présidents Emmanuel Macron de France et Paul Biya du Cameroun ont eu la primeur de ce travail consigné dans un rapport de 1000 pages, l'historienne française Karine Ramondi, qui co-présidait avec le chanteur camerounais Blik Bassi cette commission, a rassuré du libre accès et gratuit sur Internet de ce rapport. Une volonté de partage qui ne s'arrête pas là, des recommandations ont été faites pour que cette période de trouble et méconnue de l'histoire du Cameroun soit enseignée.
Une des demandes qui a été faite au président de la République, c'est de faire rentrer cette guerre du Cameroun comme une autre guerre de décolonisation dans les programmes scolaires. Nous avons fait des recommandations, nous les avons fait avec notre sérieux, notre objectif. Mais la suite politique ne nous appartient pas.
Une préoccupation à laquelle le président Paul Biya a lui aussi fait mention au Palais de l'Unité, il a évoqué la possibilité de l'élévation de lieux de mémoire à travers le pays et l'adoption de nouveaux programmes d'enseignement. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Des manifestations hier au Burkina Faso, au Mali et au Niger, car un an après l'annonce, c'est officiel à partir d'aujourd'hui, le 29 janvier, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont quitté la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Des milliers de personnes saluaient donc ce retrait hier dans ces 3 États. Un acte politique qui aura des conséquences économiques, Charlotte Cossé.
La zone de libre-échange et de circulation à laquelle avaient accès les pays de l'AES passe de 15 États aux 8 de l'UMOA. Ces trois pays se coupent également des aides de la CEDEAO, souligne François Giovalucci, chercheur ancien du Trésor français.
Il y a une banque de la CEDEAO qui s'appelle la BIDC. Les mouvements financiers sont inférieurs à 500 millions de dollars sur l'année 2023. Donc c'est pas négligeable, mais c'est quand même pas majeur si on regarde les autres apports internationaux. En quittant la CEDEAO, a priori, on se met en dehors de la réalisation des grands projets d'infrastructures régionales. La commission de la CEDEAO a annoncé aussi un chiffre en disant que les pays de l'AES allaient perdre pour 500 millions de dollars d'investissements régionaux.
Sur ces trois États, les spécialistes alertent plus particulièrement sur les vulnérabilités du Niger, Modibo Maoumakalou, économiste malien.
Le Niger a 1500 km de frontière avec le Nigeria. Il y a beaucoup de commerce informel et formel aussi entre les deux et 70% de l'électricité qui approvisionne le Niger vient du Nigeria. Donc tout cela peut avoir un impact assez négatif, mais aussi avec les difficultés qu'il y a entre Niamey et Cotonou, s'il faut contourner Cotonou pour passer par Lomé, cela va engendrer des surcoûts.
En restant dans l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, ces États gardent le franc CFA comme monnaie et continuent à bénéficier des financements régionaux.
Charlotte Cossé, mieux accompagner les travailleuses du sexe pour tenter d'enrayer la prostitution qui va grandissant. Au Tchad, c'est la politique des autorités qui ont initié des rencontres avec ces professionnels. L'objectif est de les aider à sortir de la rue pour les orienter vers d'autres secteurs d'activité. Et c'est la ministre tchadienne de la Femme, Amina Priscille Longo, qui mène ces échanges.
Nous avons mis en place un programme sur la parentalité positive et l'éducation des valeurs humaines. Et ensuite, il y a la reconversion qui a été retenue lors de nos échanges avec ces filles. Et pour cela, nous avons instruit la Maison nationale de la femme à prendre en charge ces filles pour les aider à sortir de ces métiers. Nous comptons les former, nous comptons les encadrer pour ne pas qu'elles soient encore tentées par ce vice. Il était aussi notre devoir de leur faire comprendre les enjeux, même liés aux maladies sexuellement transmissibles. Le code pénal, il ne fait pas clairement mention sur la prostitution. Toutefois, le code interdit le proxénétisme, ce qui nous ramènerait bien sûr à proposer d'autres mesures pour pouvoir encadrer cela et faire en sorte que la prostitution en tant que tel soit juste un délit et pas seulement le proxénétisme.
Les propos de la ministre tchadienne de la Femme, Amina Priscille Longo, recueillis par Olivier Monodi. Les professionnels de santé alertent régulièrement sur le sujet. Le don du sang peut sauver des vies, mais les donneurs viennent à manquer. À Madagascar, par exemple, on compte 6 centres régionaux de transfusion, 90 points de collecte, mais ça ne suffit pas. Alors certains hôpitaux tente une parade, programmer des opérations uniquement si des proches font don de leur sang, Sarah Teto.
Pansement à la pliure de l'avant-bras, Nirine, 52 ans, sort du centre régional de transfusion sanguine. Cela fait plus de 10 ans que cette vendeuse de rue vient ici 3 fois par an. Le week-end passé, la commerçante a vu sur Facebook l'appel d'urgence du CHU à JRA, alors elle a profité de son seul jour de congé hebdomadaire pour venir faire don de 3 poches de sang.
À Madagascar, il y a beaucoup de besoins et peu de donneurs. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. J'ai une amie qui a perdu beaucoup de sang en accouchant à Tana. Le temps que l'on trouve des poches de sang pour elle, c'était trop tard. Elle est décédée. Je me dis que je peux aider facilement à sauver des vies. Et c'est ce qui me motive à venir.
Derrière elle, Tania, 19 ans, vient de donner pour la toute première fois son sang. La fierté et un soulagement aussi se lisent sur son visage.
Ma tante va se faire opérer demain et le docteur a dit qu'il faut d'abord qu'un membre de sa famille donne du sang pour qu'elle puisse en recevoir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est obligatoire, sinon l'opération de ma tante sera reportée.
Si cette stratégie préopératoire combinée aux appels au don du sang permet de maintenir la majeure partie des stocks à l'équilibre, un défi persiste néanmoins. La constitution de réserve en rhésus négatif, particulièrement pour le groupe sanguin au moins. La raison, une très faible prévalence de ce rhésus dans le patrimoine génétique des malgaches. Alors, pour pallier cette rareté, les donneurs au moins, en grande partie des étrangers, ont été recensés pour être sollicités en cas d'urgence. Sarah Teto, Antananarivo.